tous les mois sur Fréquence Mistral, retrouvez votre émission littéraire Des coups au cœur. Émission proposée par Anne-Marie Smith et Tiziana. L'association Littéra 05 vous propose de voyager au gré des pages et de vous évader avec les bouquins coup de cœur.
Bonjour amis lecteurs, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau livre. Eh bien, j'ai choisi aujourd'hui un livre islandais du grand Jón Kalman Stefánsson, un écrivain donc islandais. François Bunuel de la Grande Librairie a dit de lui, il est l'un des plus grands romanciers contemporains. Je suis assez d'accord avec ça. Peut-être avez-vous lu sa trilogie « Entre ciel et terre »,« La tristesse des anges »,« Le cœur de l'homme ». Un autre roman, d'ailleurs, « Les poissons n'ont pas de pieds », qui est maintenant en folio. Et puis son avant-dernier livre, « Asta », qui a été publié en 2018, qui a été vraiment un très très grand succès en France et partout dans le monde. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler de son dernier livre, « Ton absence n'est que ténèbres ». Donc traduit de l'islandais par Eric Bourri. Eric Bourri, c'est son traducteur officiel qui traduit tous ses livres. Et ce livre a été publié en France chez Grasset, donc, en 2022. Jón Kalman Stefánsson. Je vous lis quelques lignes du début. C'est sans doute un rêve. Je suis assis au premier rang dans une église de campagne. Il fait froid. Une profonde quiétude règne à l'extérieur, à peine troublée par les bêlements des moutons et les cris lointains des sternes. Les vitres du bâtiment encadrent le bleu du ciel, la mer, une bande d'herbe verte et une montagne presque nue. J'espère que c'est bien un rêve, parce que je n'ai aucun souvenir de ma personne. Je ne sais pas qui je suis, ni comment je suis arrivée ici. J'ignore. Le narrateur, donc, qui écrit à la première personne, se retrouve dans une église de campagne, à l'embouchure d'un fjord. Il est entouré des montagnes islandaises. Et donc, il ne se rappelle rien, il est amnésique. Il quitte l'église pour entrer dans le vieux cimetière qui jouxte l'église. Et son regard est attiré par une pierre tombale sur laquelle il lit l'inscription « Ton souvenir est lumière et ton absence ténèbres ». D'où le titre, vous faites le lien « Ton absence n'est que ténèbres ». Une femme qui descend d'une colline avec une brebis à côté d'elle, à qui elle parle. Cette femme s'approche de lui et lui dit « Je suis tellement contente de te voir. Tu avais littéralement disparu. On aurait dit que tu t'étais évaporé. » Alors il comprend qu'il est amnésique. Mais il n'en dit rien. Il fait semblant de comprendre, de connaître les gens. Il tente de donner le change. Après, il va rencontrer la sœur de cette femme avec qui il semble qu'il a eu une histoire d'amour, mais ça non plus, il ne se le rappelle pas. Puis il rencontre d'autres personnes qu'il est censé connaître, mais dont il ne se souvient pas. Alors, il va essayer d'établir des relations à partir de conversations avec les uns et les autres pour assembler peu à peu des tranches de vie pour essayer de reconstituer la généalogie d'une saga familiale. Et en même temps, bien sûr, il va chercher à reconstituer, à recoller les morceaux du puzzle de sa vie pour essayer de retrouver justement les événements de sa vie, sa personnalité. Mais il n'avouera jamais qu'il est amnésique. Et très vite, le récit prend de l'ampleur, parce qu'on va remonter très loin dans le passé. Le passé, c'est un des thèmes chers à Stefánsson. Au début de ce livre, il a écrit un paragraphe qui est une sorte de préface que je vous lis. Le plus important, les choses qui vous marquent durablement, grands sentiments, expériences difficiles, chocs, bonheur intense, épreuves ou violences qui viennent secouer la société ou votre existence, peuvent laisser en vous des traces si profondes qu'elle s'imprime dans votre patrimoine génétique, lequel se transmet ensuite de génération en génération, façonnant les individus qui naîtront après vous. C'est une loi fondamentale. Vos gènes charrient vos émotions, souvenirs, expériences et traumatismes d'une vie à une autre, et dans ce sens, certains d'entre nous sont vivants longtemps après leur disparition, y compris lorsqu'ils ont sombré dans l'oubli. Nous portons perpétuellement en nous le passé, continent invisible et mystérieux qui affleure parfois quelque part entre le sommeil et la veille. Un continent dont les montagnes et les océans influent en permanence sur les couleurs du temps et les chatoiements de lumière que nous abritons. Eh bien ici, le passé, justement, il a beaucoup d'intérêt puisqu'on va remonter 120 ans en arrière, donc très loin dans le temps, puisque l'histoire s'étend sur 4 générations. Alors je vous dis tout de suite, on a parfois des difficultés à suivre, car d'abord, il y a le risque de mélanger des noms dont les sonorités nous sont étrangères, puisque le livre se passe en Islande et que les prénoms, bien entendu, sont islandais. Alors le récit, en plus de cette difficulté, je dirais, à retenir les prénoms, le récit est un vrai puzzle où il n'y a rien de chronologique, le temps n'a rien de chronologique, où les histoires des uns et des autres se chevauchent et nous font perdre quelquefois le fil de l'histoire. Exactement comme le narrateur, le lecteur a essayé, il faut y arriver bien sûr, relie les fils entre les personnages du mieux qu'il peut, jusqu'à arriver à établir des liens justement entre les personnages, entre les lieux et les époques. Moi je vous dis tout de suite, je prends un crayon et un papier et je note les relations entre les personnages pour pouvoir m'y retrouver. Pour nous aider, il y a des titres de chapitres qui nous donnent quelques indications, mais ce n'est pas toujours très probant, c'est beaucoup plus poétique, je dirais, qu'explicatif. Je vous en donne quelques-uns de ces titres. L'homme a inventé le diable pour endosser ses péchés. Une autre qui est pleine d'émotions. Comment vais-je faire pour mourir si tu n'es pas à mes côtés? L'histoire d'un homme qui dit ça à sa femme qui vient de mourir. Une qui est pleine d'humour, que j'adore. Les aurores boréales, Dieu est un fumeur de hache. Une autre encore pleine d'amour. Souviens-toi de moi et les démons s'éloigneront. Et puis celle que je préfère. Personne n'a le droit d'assassiner l'amour. Personne n'a le droit d'assassiner l'amour. Alors peu à peu, donc, les morceaux de l'histoire s'imbriquent les uns dans les autres et chaque génération prend bien sa place, je dirais, sur l'arbre généalogique. Mais comme je vous disais plus haut, ce n'est pas sans mal. On est bien loin des sagas traditionnelles où les faits sont racontés d'une façon chronologique. Alors mon but aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire la chronologie des 4 générations. Je veux simplement vous lire quelques passages de l'histoire, vous présenter quelques personnages pour vous montrer combien ce livre, que je dirais ambitieux, est à la fois lumineux et bouleversant. Alors par exemple, si on remonte 120 ans en arrière, c'est pour suivre le révérend Pétur et la fermière Gudiridur. Une femme presque paysanne qui vit sur la lande islandaise avec son mari et ses enfants, ses 2 filles. Ils ont perdu une fille. C'est une femme presque illettrée, mais qui avait eu l'audace d'écrire un article sur les lombriques, les vers de terre, pour montrer l'importance des lombriques, le rôle qu'ils jouent justement dans la terre. Et cet article, elle l'avait envoyé au pasteur Pétur, parce que ce pasteur éditait un petit journal scientifique. Et lui, quand il avait su que cette femme audacieuse avait écrit un livre sur les lombriques, il n'avait pas hésité à prendre son cheval, sa jument je crois, et à parcourir des kilomètres sur le dos de son cheval pour venir la voir. Alors on le suit sur son périple, dans son périple plutôt, à travers la lande islandaise qui dure de longues heures, Et c'est l'occasion pour Stephenson d'évoquer la nature islandaise qui est si belle. Et ici, par exemple, il nous parle des oiseaux migrateurs. Sa jument, la jument du pasteur Pétur donc, sa jument effarouche une bécassine des marais qui s'envole à tire-d'aile. L'instant d'après, il entend un pluvier doré et se sent tellement reconnaissant envers ces oiseaux voyageurs qu'il aurait presque envie de chanter. C'est merveilleux de les avoir ici. Ils emplissent les cieux de leur chant et de leur optimisme et rendent la vie plus facile. Nous devrions les remercier un peu mieux et plus souvent. C'est pourquoi Pétur arrête son cheval, pose pied à terre et leur rend grâce. Il les remercie de faire preuve envers nous d'une belle fidélité que nous ne méritons pas, de venir jusqu'ici année après année, quittant des régions plus chaudes et plus clémentes. Merci à toi, pluvier doré endimanché. Merci, barge à queue noire montée sur tes échasses. Merci à toi, chevalier gambette bavard, et toi, bécassine des marais, qui ressemble à un point fermé quand tu te caches entre les touffes d'herbe, dans les ajoncs, à l'abri des berges des rivières. Tu prends ton envol à l'approche de l'homme, et ton cri retentit dans les airs comme une note divine. Merci de ne pas nous abandonner et de revenir chaque année, armé de votre optimisme, persuadé que la vie triomphe toujours, que rien ne saurait la mettre à genoux. Merci de nous convaincre que nulle ténèbre ne saurait l'emporter sur la lumière du printemps. Soyez remerciés, dit le révérend Pétur. Puis, assis sur une motte d'herbe mouillée, ils fondent en larmes. Ils pleurent parce que c'est le printemps, parce que la vie se réveille après les longs mois d'hiver presque immobiles, lourds de nuit, ponctués de tempêtes assassines. Ils pleurent parce que la bécassine des marais est revenue avec son bel optimisme, mais parce qu'elle lui semble tellement vulnérable face aux giboulées de pluie, de grêle ou de neige qui ne manqueront pas de s'abattre sur elle. Ils pleurent parce que même si la lumière l'emporte pour l'instant, elle redeviendra à nouveau ténèbres. La lumière et les ténèbres, ce sont des thèmes qui reviennent continuellement. Après les ténèbres, il y a la lumière, mais après la lumière, il y a les ténèbres. Une autre histoire, une autre génération qui se passe dans les années 70. L'histoire d'Aldis, une fille de la ville. Je pense qu'elle, oui, si je me rappelle bien, elle vit à Reykjavik, à la capitale de l'Islande. Elle est fiancée à Johannes et cependant, elle a le coup de foudre pour un jeune paysan qu'elle a aperçu en train de conduire son tracteur dans un champ et qui chante à tue-tête « It's all over now, baby blue » de Bob Dylan sur son tracteur. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous dire que le livre est plein de musique. Avec les personnages, on écoute les Beatles, Bruce Springsteen, Chet Baker, John Coltrane, Tom Waits, Amy Winehouse. Des personnages enregistrent des chansons. Ils font un CD appelé « La Camarde ». Qu'on peut trouver d'ailleurs chez Spotify. Si vous allez chez Spotify et vous demandez la Camarde, eh bien on vous le donne. D'autres personnages jouent dans un petit orchestre. La musique, c'est vraiment un lien très fort entre les personnages. Il y a la musique qui atténue les douleurs quand on perd quelqu'un, par exemple. Un morceau de musique qu'on compose pour la mort d'un être cher. Ou alors, inversement, pour le retour joyeux de quelqu'un qu'on aime. En l'absence de musique, la vie n'est pas la vie, mais simplement pauvreté et averse de neige, nous dit Héricourt, un des personnages que nous allons retrouver un petit peu plus loin, dont la passion pour la musique le rapproche de son père. Ils n'ont jamais pu se parler tous les deux, mais ils font de la musique ensemble. Et en faisant de la musique, ils ont l'impression de se parler justement et de se rapprocher. Mais revenons à Aldis. Elle ne peut oublier les yeux bleus du jeune paysan et le regard qu'il lui a lancé. Un regard bref, ferme et insolent, on peut lire. Alors elle se confie à sa mère. Maman, je dois être folle. Je ne pense qu'à une chose, la manière dont cet homme m'a regardée et ses yeux sans pareil. Je suis obsédée par l'idée de retourner là-bas. Et évidemment, c'est complètement idiot. Pourquoi le ferais-je ? Pour me ridiculiser ? De plus, c'est un paysan. Et nom de Dieu, je t'assure que je n'ai pas envie de vivre dans ce trou paumé. Pourtant, je suis incapable de penser à autre chose. J'ai l'impression de perdre la tête. Je ne me suis jamais sentie aussi malheureuse et en même temps aussi heureuse. Elle pleure. Elle tient des propos insensés sur un paysan qui l'a regardée de ses yeux d'un bleu irréel et a tout transformé. Alors elle s'est confiée donc à sa mère. Eh bien, la réponse de sa mère est, je dirais, inattendue. Plutôt que d'essayer de ramener sa fille à la raison, la voyant épuisée et tellement bouleversée qu'elle est incapable de réfléchir correctement, plutôt que de lui acheter un billet pour le prochain vol vers New York, elle devait aller à New York rejoindre son fiancé, Johannes, Olina, la maman donc, l'accompagne à la gare routière au petit matin, 2 jours plus tard. « Tu dois tenter ta chance, dit-elle. Il y a des femmes à qui une telle occasion n'est jamais offerte ou qui n'ont pas le courage ni la force de la saisir et de façonner elles-mêmes leur destin. Va là-bas et vois ce qui t'attend. Tu pourras toujours revenir. Tu comprendras peut-être que ce n'est qu'un rêve imbécile. » Mais qu'importe, c'est en commettant des erreurs qu'on en apprend le plus. En revanche, ce n'est qu'en partant qu'on a la possibilité de revenir. Alors elle s'en va, elle prend le car. Pendant des heures, le voyage dure des heures, et elle retrouve le fermier aux yeux bleus. Et voilà ce qu'elle lui dit. « Pardonne-moi, mais j'étais obligée de revenir. » Avant tout, pour te demander pourquoi tu m'as regardé comme ça l'autre jour. Je sais que ma question est idiote. Mon comportement te semble scandaleux? Si oui, les fermiers d'Audi peuvent m'héberger. Ensuite, je prendrai le premier autocar pour rentrer chez moi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Tu n'as pas à m'épargner. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit que tu as des yeux d'un bleu incroyable? Au fait, je m'appelle Aldis. Nous pourrions peut-être nous asseoir quelque part. Je crois que nous avons besoin de discuter. La gentille fermière, Afrune, m'a donné une bouteille de brénivin. Fermière, hein, ça se dit, n'est-ce pas? C'est la première fois que je parle à des campagnards. Ces hommes ont parfois besoin qu'on leur délie la langue, m'a-t-elle dit. Naturellement, j'ignore tout de toi, et si je m'autorise à te parler de cette manière, c'est peut-être parce que l'autre jour, tu écoutais du Dylan et aujourd'hui du Cohen, qui plus est, ma chanson préférée. C'est inutile d'en rajouter, mais me voilà ici et j'ai besoin de savoir qui tu es vraiment. Tu crois qu'il nous faudra vider la bouteille ? Haraldur écarte sa mèche de ses yeux, il sourit, le cœur d'Aldis bondit. Puis le jeune homme lui montre le mur du cimetière. « Je connais un bon endroit pour boire cet alcool. Tu as du temps devant toi ? Je suis tellement heureux de te revoir. » Ils se marièrent l'été suivant. Voilà une belle histoire d'amour qui finit bien. Aldis, c'est vraiment, comme beaucoup de personnages de Stephenson, ceux qui osent tout quitter et tout laisser derrière eux, pour un seul regard. Une autre histoire, celle d'Éricur. Toujours sur la lande islandaise, une ferme, un couple, Skuli et Afrune, qui ont vécu ensemble, je crois qu'il y a une 60aine d'années, qui se sont aimés. Ils ont 3 enfants, Aldor, Pal et Kari. Éricur est arrivé dans le fjord à l'âge de 3 mois. Chaudement emmitouflé, allongé dans le siège bébé installé à l'avant d'une vieille Datsun fatiguée. En ce début d'hiver, le temps était clément. Après d'importantes chutes de neige, un redout de plus d'une semaine avait fait fondre le manteau blanc, presque entièrement disparu des champs, ne laissant que quelques congères affaissées dans les fossés. Les routes étaient parfaitement dégagées, la lande qu'on doit traverser pour atteindre la vallée n'était pas un obstacle. Sans doute le destin s'était-il arrangé pour ouvrir la route aux nourrissons. Deux jours après son arrivée, une tempête s'était abattue, la neige était tombée en abondance, la lande avait été fermée pendant quelques jours. La Datsun marron et cabossée qui s'était garée devant la ferme d'Audi aurait alors eu tout le mal du monde à arriver ici. Elle s'était garée devant la vieille maison en bois qu'avaient bâtie Afrune et Scully. Un beau bâtiment, fierté de la région. La vieille voiture s'était arrêtée avec un soupir devant la ferme et une jeune femme svelte en était descendue avec un nourrisson dans les bras. Belle, le dos droit, mais le visage fatigué et les yeux cernés. Les deux chiens étaient venus l'accueillir, l'avaient reniflé, avaient flairé les pneus du véhicule et les avaient marqués d'un jet d'urine. Afrune avait salué l'arrivante depuis le pas de sa porte, petite, aussi fine qu'une elfe, les cheveux coupés à la carsonne, le front haut et clair, les yeux en amande, vifs et chaleureux. Elle était seule à la maison. « Que ce jour soit béni, » avait dit Afrune, en s'avançant dans la cour de la ferme. « Que me vaut l'honneur de cette visite? Qui êtes-vous ? » La jeune femme avait baissé les yeux sur son bébé, puis regardé la maîtresse de maison. « Je suppose que vous êtes Afrune, la mère de Haldor. » Afrune avait acquiescé d'un hochement de tête, envahie par un vague soupçon. La jeune femme avait serré son enfant un peu plus fort, respiré un grand coup et annoncé « Je m'appelle Svana. Je suis la mère de l'enfant de Haldor. Je vous présente Éricur, notre fils. » « Je suppose que nous ferions mieux de rentrer pour un café, » avait répondu Afrune, le visage impassible. « Vous n'allez pas rester dehors dans le froid avec ce petit ?» Quelques minutes plus tard, les deux femmes sont assises l'une face à l'autre dans la cuisine. Afrune allume la cafetière, elle pose des bugnes et du gâteau marbré sur la table, tandis que la jeune mère lui parle, lui raconte, lui explique. L'automne précédent, elle a travaillé avec Haldor aux abattoirs de Burda d'Alur et ils sont tombés amoureux. Un amour interdit parce que Svana est mariée et mère de deux enfants. Et Svana continue de raconter longuement son amour pour Haldor. Je n'avais jamais imaginé qu'on puisse aimer comme ça. D'une manière totalement déraisonnable, avait-elle poursuivi, regardant à nouveau son fils comme si elle s'adressait à son enfant dénué de langage, comme pour lui présenter ses excuses. J'avais l'impression d'aimer pour la première fois. L'idée était aussi délicieuse que terrifiante. Non seulement je trompais mon mari avec un autre, mais qui plus est, j'aimais Haldor bien plus fort et avec plus de passion que j'avais jamais aimé mon époux. J'avais l'impression que j'allais mourir d'amour. Ce qui est évidemment impossible. Une voiture nous renverse et on meurt. On attrape un cancer et on meurt. Mais l'amour ne s'attrape pas comme un cancer qui nous fait mourir. Je crois que malheureusement, il n'existe personne qui ressemble à votre Haldor, avait-elle repris. Il est tellement vivant qu'il m'a contaminée, et son insouciance libératrice semble pouvoir ouvrir toutes les portes de la vie. Je ne savais pas, avait repris Svana, que l'amour pouvait être à la fois infiniment beau et extrêmement physique. Je n'avais jamais assez de lui. Mon corps se gorgeait de sa chair, comme le désert se réjouit d'accueillir la pluie. Tout cela avait duré 4 semaines, 4 semaines de frénésie, d'insouciance, de trahison, de bonheur éperdu. Puis, Svana s'était enfuie. Elle était retournée chez elle pour sauver son ménage, le sauver de la ruine. Elle était rentrée anesthésiée par la douleur, ployant par la mauvaise conscience, mais fermement résolue à envisager sa relation avec Aldor comme une aventure défendue, un secret qu'elle emporterait dans la tombe. Puis, 2 semaines plus tard, elle avait compris qu'elle était enceinte, ce qui avait tout changé. D'une manière étrange et pour ainsi dire perverse, l'idée d'avouer son infidélité à son époux lui semblait maintenant plus simple, comme si la vie qui s'épanouissait en elle avait le pouvoir de tout justifier. Elle avoue donc son amour pour Aldor à son mari. La réaction de son mari est très violente et il exige qu'elle se fasse avorter. Svana refuse. Alors, elle se réfugie chez sa mère pour, passer sa grossesse en cachette. Et après la naissance de son fils Éricur, donc, elle prend une grave décision. Mon époux est quelqu'un de bien et il m'aime passionnément, mais il est d'une jalousie terrifiante. Je sais qu'il ne me pardonnera jamais ce que j'ai fait. C'est le prix à payer. Mais le pire est que c'est aussi pour cette raison que je ne peux pas garder Éricur auprès de moi. Chaque fois qu'il le regardera, mon mari se souviendra de ma trahison, de ce qu'il appelle son humiliation. Je crains, non, je suis certaine, qu'il ne pourra jamais l'aimer. Et je crains que s'il parvient à dissimuler son dégoût, peut-être même sa haine, cela n'empoisonne la vie de toute la famille. C'est pour cette raison que j'ai décidé de mettre Éricur au monde sans que mes enfants ni les parents de mon mari soient au courant. Et que très vite, j'ai pris la décision de l'emmener ici dès que possible, de préférence une semaine après sa naissance. Pourtant, je ne viens que maintenant, alors qu'il a déjà 3 mois. Je n'arrivais pas à me résoudre à me séparer de lui aussitôt. Finalement, on n'est pas si solide que ça. Elle avait réfléchi à la question sous tous les angles. Aldor lui avait parlé de ses parents. Elle avait l'impression de les connaître. Voilà pourquoi elle était convaincue qu'ils offraient à Éricur un refuge où il pourrait grandir en toute sécurité, entouré de tendresse. « J'aime votre fils Aldor », avait poursuivi Svana. « Je me suis sentie tellement libre quand j'étais avec lui. » La moindre chose devenait tellement drôle et intéressante. Mais je ne suis pas certaine que j'aurais emmené mon petit Éricur ici et que je l'y aurais laissé si vous n'aviez pas été là, vous et votre mari. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. En revanche, Éricur ne doit jamais apprendre que sa mère est vivante, dit-elle, parce qu'à ses yeux, il faut que je sois morte pour qu'il ne souffre pas. Et à la fin, elle fait ses adieux à son fils. Des adieux très émouvants. Je sais qu'il ne se passera pas une journée sans que je pense à toi, sans que mes pensées soient à tes côtés. Je sais aussi qu'un jour, je ne résisterai pas à l'envie de revenir dans ce fjord comme une inconnue, simplement pour venir jusqu'à votre ferme et te demander un verre d'eau. Je sais que je te reconnaîtrai immédiatement. Je te reconnaîtrai toujours, partout dans le monde et n'importe quand. Je viendrai ici te demander un verre d'eau, rien qu'un verre d'eau, et uniquement pour boire dans un récipient sur lequel tes mains se seront posées. Un verre qui aura gardé la chaleur de tes paumes. Ce sera peut-être dans 6, dans 8, dans 10, dans 12 ans. Je ne le sais pas exactement. Puis je le boirai lentement, tandis que ma paume se gorgera de la chaleur de la tienne. Pardonne-moi. Mon amour, c'est pour cet instant que je vivrai. Je vous laisse découvrir la suite, ce qu'il advint d'Éricure, qui a passé toute son enfance chez ses grands-parents, avec son père Aldor, qui a eu une enfance et une jeunesse très heureuse. Voilà, vous voyez que ce roman est un enchaînement de questions sur la vie, sur la mort. Je vous lis quelques phrases comme ça, glanées au hasard. Serait-ce donc un péché, serait-ce une trahison que d'écouter son cœur, d'aller là où vous le commande l'aiguille tremblante de sa boussole, même si cela implique la fin du monde? Et plus loin, quelle est la solution? Étouffer les voix du cœur dans l'espoir que le monde ne bougera pas d'un pouce, ou s'accrocher aux sentiments, leur laisser le pouvoir et faire ainsi de son existence un saut dans le vide? Étouffer le cœur et donc se sacrifier, se trahir, ou vivre en accord avec soi-même et suivre l'aiguille de la boussole? C'est l'amour donc qui est au cœur de ce roman, des amours intenses, des sentiments extrêmes, je dirais, du sexe aussi. Mais à côté de l'amour, il est aussi question de choix et de trahison. Parce que, nous dit-il, l'amour a pour chaperon le malheur et que la trahison est assise à ses côtés sur le même banc de nage. Je terminerai sur un autre thème cher à Stephenson, le temps qui passe. Il en a une définition vraiment particulière. Le temps qui passe, c'est un pistolet chargé, un éboulis qui s'abat sur votre vie, un hier qui ne vient jamais, hier, H-I-E-R, un hier qui ne vient jamais. Merci pour votre écoute. À bientôt avec un autre livre. Lord, I've done so much wrong, but please give me strength to care.